Bienvenue à toutes et tous sur Startup Job Story, le podcast qui décrypte les métiers en startup. Proposé par la Fresh Tech in the Alps, le collectif des startups alpines, il invite à découvrir les métiers de demain à travers le regard de celles et ceux qui les exercent aujourd'hui. C'est Mathilde qui se charge d'interviewer notre invité. Allez, c'est parti!
Bonjour, je suis Laura Colomba et je travaille pour la Fresh Tech in the Alps. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marc Tofano. Marc, est-ce que tu peux nous dire le métier que tu exerces ?
Alors bonjour, le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est directeur du développement au sein d'une jeune start-up qui a 3 ans, qui s'appelle Be My Media.
Très bien, merci beaucoup. Alors avant toute chose, et pour briser la glace, nous avons demandé à chaque intervenant de choisir un objet et de nous dire pourquoi ils l'ont choisi et ce qu'il représente pour eux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'objet que tu as choisi ?
Oui, moi je vais vous dire, j'ai choisi donc ma raquette de tennis. Alors, pourquoi une raquette de tennis ? C'est effectivement déjà parce que le sport a une certaine importance dans ma vie et qu'effectivement, dans le métier qu'on peut exercer, on est quand même soumis à pas mal de pression et le sport nous permet effectivement d'évacuer un peu cette pression sans passer effectivement par tous les bienfaits qu'il peut procurer. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cet objet, la raquette de tennis, parce que voilà, elle symbolise en même temps le fait qu'elle me permet de me retrouver à un moment, effectivement, de récupérer une certaine énergie, on va dire, pour pouvoir ensuite le lundi être un peu plus opérationnel au travail.
Ah, très bon point. Très bon point, je note. Merci beaucoup. Et donc du coup, Marc, est-ce que tu te souviens du métier que tu voulais faire quand tu étais plus jeune ?
Ah ouais, quand j'étais plus jeune, je voulais être architecte.
Ah, bon métier.
Et c'est quelque chose qui m'a, au fond, suivi toute ma vie scolaire, puisque je m'étais même à la sortie du bac inscrit à l'école d'architecture de Grenoble,
ouais.
Où j'avais été pris, mais... suite à des discussions, on va dire, avec ma famille ou avec tout ça, on m'avait dit que le métier d'architecte, il y avait très peu de débouchés. Donc, en fait, j'ai fait un rétro-pédalage et je suis parti dans une autre orientation qui était beaucoup plus sur la gestion de production et la qualité.
La gestion de production,
ouais.
Et la qualité.
Ouais.
Donc, pas encore forcément un lien perceptible avec la fonction de directeur commercial. Alors, que tu exerces aujourd'hui.
Pas du tout, puisque en fait, moi, j'ai une formation au départ, j'ai un DUT en organisation et gestion de production, et ensuite, j'ai une maîtrise en gestion de la qualité. Donc, qui est au fond rien à voir au départ avec la fonction de responsable commercial que j'occupe aujourd'hui et que j'ai déjà occupé de par le passé dans d'autres entreprises.
Oui, parce que tu me disais que juste avant qu'on commence l'interview, que tu avais travaillé dans le BTP.
Ouais,
donc, j'ai travaillé. En tant du coup que directeur commercial dans des entreprises du BTP ou alors du coup comme gestionnaire de production
Alors non, j'ai travaillé dans le BTP. J'étais au départ, donc je suis rentré dans une entreprise qui s'appelle Crea Design et qui est un contractant général. Donc on peut peut-être pas rentrer dans le détail de contractant général, mais moi je travaillais en même temps sur Paris. Et donc j'étais en fait responsable de l'agence de Paris où on gérait effectivement des chefs de projet et des dessinateurs. Et donc on réalisait essentiellement des travaux dans ce qu'on appelle le second œuvre. Alors je sais pas si on peut rebondir au fond entre ce que j'ai voulu faire quand j'étais petit et que je n'ai pas fait. Et au fond, et le fait d'avoir travaillé à un moment dans, on va dire, la construction, où quelque part, j'ai un peu retrouvé mon rêve d'enfant. Vous voyez ?
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc j'ai quand même travaillé 7 ans dans cette entreprise où j'étais à la fois responsable dans un premier temps d'une agence, de l'agence de Paris, et ensuite j'avais aussi comme fonction responsable qualité et en même temps responsable commercial.
Et donc là, au regard de ton parcours, donc tu commençais à avoir en effet des fonctions dans tout ce qui était développement commercial. Aujourd'hui, tu es directeur commercial au sein d'une start-up qui est Be My Media. Tu nous expliqueras aussi ce que fait Be My Media, parce qu'au final, le lien entre le BTP et les activités de Be My Media, il y a quand même un gap.
Il y a un gap
entre
énorme.
Les deux,
ouais.
Donc, je suis
mais
curieuse de savoir.
En fait, ce qu'il faut voir, il faudrait peut-être revenir en fait au départ, c'est-à-dire effectivement, bon bah comme je vous ai expliqué, j'ai eu le parcours d'études que j'ai eu. Quand j'ai fini mes études, j'ai été directeur qualité, donc j'ai mis en place des systèmes d'organisation dans une entreprise qui travaillait dans la pétrochimie. Et de là, en fait, je suis parti dans un cabinet conseil. Et c'est la fonction commerciale, j'ai commencé à la découvrir à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant que consultant, comme je travaillais dans un petit cabinet conseil Marseille qui se trouvait à Albertville, on était obligé d'aller chercher nos clients. Donc, j'ai découvert en fait la fonction commerciale à travers, au fond, mon rôle de consultant dans un premier temps. Et cette fonction commerciale est devenue prépondérante ensuite dans mon parcours, puisque je suivais en tant que consultant une entreprise à Genève qui m'a débauché et qui m'a demandé, au fond, d'être à la fois responsable commercial, donc pour un développement sur le marché français, et en même temps responsable qualité. Et j'ai toujours eu cette double fonction dans quasiment toutes les entreprises que j'ai, pour lesquelles j'ai travaillé. Donc j'étais à la fois, parce que c'est assez rare d'avoir une personne qui à la fois peut faire du commercial et en même temps mettre en place des systèmes d'organisation. Donc ça intéressait essentiellement des PME, donc j'ai beaucoup travaillé en fait sur ce type d'activité, enfin pour ce type d'entreprise-là, et où j'ai souvent utilisé effectivement cette double fonction jusqu'à au métier précédent que j'occupais, où effectivement j'avais cette double fonction.
Très bien, et alors du coup maintenant tu es depuis quelques mois au sein de la start-up Be My Media.
Ouais. Donc ça fait effectivement, ça fait 3 mois. Alors comment arriver au fond dans une start-up déjà ? Ce qu'il faut voir, c'est que Be My Media a été fondé par deux personnes, Valérian Pep et Bertrand Giffon. Bertrand, je le connaissais parce qu'on a travaillé ensemble chez Créa Design, donc dans cette entreprise. On se connaissait et on s'appréciait énormément. Et Bertrand m'avait dit qu'il allait lancer effectivement un nouveau projet, donc le projet de Be My Media, qu'il fallait lui laisser peut-être du temps et que... en fonction, on se rappellerait. Et donc, deux ans après, ben Bertrand, il a tenu sa parole. Il m'a rappelé, il m'a dit, je suis prêt. Est-ce que le projet t'intéresse toujours ? Et je lui ai dit que le projet m'intéressait plus que jamais, puisque effectivement, Be My Media travaille aujourd'hui dans un secteur d'activité qui est très intéressant et dans lequel, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire.
Donc, ça a commencé par une aventure humaine, en tout cas, un lien relationnel qui s'est créé.
Ouais.
Et puis ensuite, l'attrait. Aussi pour le projet.
Ouais,
donc,
alors,
ce que je comprends, c'est un projet qui t'intéresse, qui te parle, qui t'anime.
Exactement. C'est au fond, si je regarde un peu ma vie, ça a toujours été des rencontres. Et je pense que dans le monde professionnel, on est tous un peu pareil. C'est une rencontre qui nous donne des fois l'opportunité de changer ou de modifier certaines choses ou d'évoluer ou de progresser. Et effectivement, donc il y a cette rencontre, mais il y a en même temps le sujet, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Et j'arrive à un âge où on a envie, effectivement, des fois de donner un sens à la profession, enfin donner un sens à sa vie professionnelle.
Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour ça.
Ouais,
on l'observe de plus en plus,
ouais,
en tout cas chez les jeunes.
Oui, oui, on le trouve même beaucoup plus aujourd'hui qu'on pouvait peut-être le trouver avant. Moi, je vois effectivement les jeunes avec qui je travaille aujourd'hui, parce que quand on travaille dans une start-up, on travaille effectivement avec des gens qui sont souvent beaucoup plus jeunes que nous, enfin, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que l'environnement était quand même assez jeune. La proposition de Bertrand, en fait, elle est redonner un sens au métier que j'allais exercer. Et effectivement, l'éducation aux médias et à l'information, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, sur lequel on discute beaucoup. Il y a eu pas mal de rapports qui ont été faits, notamment le dernier rapport, je ne sais pas si vous avez pu le lire, le rapport Bronner, qui a été mandaté par le président de la République, et donc sur lequel, en fait, ils sont venus expliquer effectivement toutes les problématiques qu'on pouvait rencontrer, à la fois sur l'éducation aux médias et à l'information, mais en même temps sur l'utilisation d'Internet, des écrans, enfin tout ça.
Ouais, complètement le rapport aux réseaux sociaux et la consommation, on va dire, des jeunes, des réseaux sociaux et de l'information.
C'est la manière, en fait, aujourd'hui de s'informer.
Ouais.
Effectivement, entre le fait et vous, il se passe une multitude de choses et c'est de pouvoir, effectivement, aujourd'hui, prendre conscience, en fait, des problématiques qu'il peut y avoir. Et ensuite, derrière tout ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour, effectivement,
pallier à
ces biais-là. Donc, Be My Media a développé pendant 3 ans, effectivement, un scénario pédagogique qui est basé sur, on va dire, deux volets. Un volet présentiel qui va être la découverte, en fait, la prise de conscience par ce qu'on appelle la fresque de l'information. Donc, c'est généralement quelque chose qui se fait donc en présentiel. Et ensuite, on a développé une application numérique qui, elle, a deux aspects. Un aspect, effectivement, s'informer, où on fournit 400 sources d'informations. Et à côté, un autre volet qui s'appelle progresser, où effectivement, la personne va devoir effectuer des exercices. Vous avez des blocs de compétences à acquérir. Et effectivement, à la fin, la remise d'un certificat. Bon, je vous la fais quand même un peu courte parce qu'il faudrait rentrer un peu plus dans le sujet pour développer les capsules pédagogiques, parce qu'à chaque saison, vous avez 20 capsules pédagogiques à acquérir. Et un quiz final à la fin d'une saison, vous passez à la saison 2. Et voilà, donc ils ont développé ça. Effectivement, c'est un moyen, en tout cas, pour pouvoir pallier à ce type de problématique.
Très bien. Et donc, du coup, les personnes, vos clients, oui, vos prospects aujourd'hui sont,
en fait, nos clients aujourd'hui, du moins les gens qu'on cherche effectivement à toucher, c'est le monde de l'éducation, donc les lycées dans un premier temps, ensuite l'enseignement supérieur, le monde de l'entreprise aussi est aujourd'hui aussi impacté par ces problèmes-là, parce qu'on parle des problèmes, au fond, de lecture d'informations chez les 15-25 ans, mais on pourrait aussi regarder comment les adultes s'informent aujourd'hui. Et quand on lit le rapport ou les différents rapports même du CESE, ça ne s'adresse pas qu'à un public jeune, ça s'adresse au fond à l'ensemble de la population. Et on voit effectivement les problématiques qu'on a pu avoir face à certaines fake news, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer par rapport à ça et les conséquences que ça peut avoir. Donc, forcément, on s'applique toujours à la jeunesse dans un premier temps quand on veut mettre quelque chose en place, mais on touche aussi le monde de l'entreprise.
Et aujourd'hui, donc, du coup, toi, ton rôle en tant que directeur commercial,
mon rôle en tant que directeur commercial, c'est déjà de définir une politique commerciale. C'est-à-dire, c'est de définir des objectifs sur quels sont les secteurs sur lesquels on doit travailler en priorité. Donc, c'est de définir tout un processus commercial et en même temps une tarification, de tout mettre en œuvre pour effectivement ensuite mettre en place des actions.
Très bien. Et au sein de Be My Media, mm-hmm, vous êtes une équipe de combien ? Est-ce qu'il y a plusieurs commerciaux ou est-ce que tu es le seul ?
Non, aujourd'hui, on est une équipe de 7 personnes. On est 7, donc il y a effectivement... Je serai donc responsable du développement, du développement commercial et je ne suis pour le moment la seule personne à avoir cette fonction-là dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire que les autres n'en font pas quelque part, parce qu'on a une personne qui s'occupe de la communication, une autre personne on a un journaliste, par exemple, qui fait des revues de presse sur notre application une fois par semaine. Donc tout le monde, un peu par son réseau et par les gens qui connaissent, essaye un peu de faire du commercial. Mais aujourd'hui, on a 7 personnes, effectivement, avec une responsable pédagogique, un développeur, c'est-à-dire un développeur en interne qui effectivement s'occupe de notre application.
Et c'est intéressant parce que justement, comment tu te positionnes au sein de l'entreprise ? Quel lien tu crées avec chaque personne de l'équipe ? Et dans quelle mesure c'est intéressant et pertinent de collaborer avec chacun ? Comme tu me dis, tout le monde touche un peu, fait un peu du commercial à son niveau.
Là, c'est le début, si tu veux. Voilà, donc
on est d'accord.
Au départ, effectivement, c'est pour ça qu'en même temps, responsable commercial est là, c'est qu'il faut structurer la chose. Au départ, on a toujours tendance, effectivement, quand on crée quelque chose, à vouloir le promouvoir le plus possible un peu à tout le monde. Donc, on utilise chacun son réseau, quelque part, ou ses réseaux. À un moment, il faut structurer tout ça, il faut qu'il y ait une suite logique aux choses pour pouvoir avoir des résultats et les quantifier. Donc, après, ma relation, effectivement, avec les gens en interne, c'est de l'échange déjà dans un premier temps. Quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise, effectivement, vous êtes le nouveau. Donc, il faut connaître un peu les rouages de l'entreprise, même s'ils sont toujours un peu les mêmes. Peu importe, au fond, le secteur d'activité, une entreprise fonctionne toujours à peu près de la même manière. Mais c'est connaître effectivement les gens avec qui vous travaillez. Donc, d'échanger et de voir et ensuite, effectivement, les relations qu'on va pouvoir avoir ensemble. Donc, les relations avec le marketing, elles sont directes, elles sont immédiates. Mais avec la responsable pédagogique aussi, elle est directe et immédiate, puisque quand vous allez proposer quelque chose à une école de l'enseignement supérieur, admettons une école de commerce, il y a un suivi pédagogique derrière à mettre en place. Donc forcément, il y a une relation avec la responsable pédagogique.
Oui, c'est extrêmement important que chacun soyez en lien pour savoir aussi entre la manière dont les choses sont présentées à l'extérieur, comment elles sont discutées et décidées en interne et réciproquement.
Exactement, c'est exactement ça. Et c'est très important parce que, comme vous dites, il y a une communication interne et il y a une communication externe. Et il faut qu'il y ait une adéquation entre la communication interne et la communication externe pour pas qu'au fond, les gens communiquent effectivement chacun de leur côté et peuvent brouiller certains messages. Donc, en ça, c'est très important.
Donc, toi, tu as un vrai rôle à la fois à l'extérieur de pouvoir représenter la société et vendre, du coup, votre solution auprès de clients et aussi en interne de pouvoir transmettre l'avis, les besoins du client auprès des équipes afin d'adapter la solution, le produit au mieux aussi au marché.
C'est un peu ça, c'est un peu le rôle en fait du commercial quelque part. C'est quoi, c'est le commercial, c'est un peu la tête d'affiche, on va dire. C'est la tête de gondole qui est effectivement au contact du client et donc définit quelque part ses besoins ou du moins fait redescendre certaines informations pour dans le but de faire évoluer le produit ensuite. Hein. Mais oui, c'est ça, c'est une relation, c'est le commercial qui monte et qui descend les informations.
Et quels sont les aspects dans ton métier que tu préfères ?
Oh, je pense que quand on fait ce type de métier-là, il faut aimer le contact. Il faut aimer le contact, il faut aimer partager, il faut aimer effectivement, il faut pas avoir peur d'aller au contact. Voilà, c'est un peu ce qui freine un peu tout le monde et ça peut se comprendre. C'est pas facile de prendre son téléphone et d'appeler quelqu'un et de lui dire il va falloir que tu m'écoutes, j'ai quelque chose de super intéressant. J'ai un sujet super intéressant et de le motiver et de faire en sorte qu'à la fin, ils vous disent « oui, c'est vrai ». Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir dépasser et ce n'est pas facile. Hein, mais moi encore, malgré le fait que j'en fasse déjà depuis un certain moment, on a toujours une appréhension en fonction des personnes qu'on va pouvoir rencontrer. Ouais.
Et du coup, tu dirais que les principales qualités, compétences pour être aujourd'hui directeur commercial, business développeur au sein d'une entreprise, ce seraient lesquelles pour toi ?
Je crois que c'est l'écoute déjà. C'est peut-être des fois ce qu'on oublie, ouais. mais pouvoir vendre, faut savoir écouter. Et il y a trop de gens qui en fait parle beaucoup sans écouter au fond la personne qui est en face. Donc je pense que c'est déjà la première qualité, c'est savoir écouter. Avoir forcément de l'empathie. Pouvoir analyser une situation assez rapidement, parce que quand vous êtes face à quelqu'un, effectivement, il y a des choses que vous sentez et que vous voyez. Donc ça va permettre en même temps de briser un peu la glace. C'est un peu ce qu'on a fait au début. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un entretien avec quelqu'un, il y a toujours ces 20 premières secondes, ces 20 premiers mots qui vont être très importants. Parce qu'ils vont permettre effectivement de mettre le discours sur les rails. Donc là, ça va nécessiter peut-être des fois une analyse un peu rapide de l'environnement dans lequel on est pour pouvoir en même temps adapter peut-être un discours qui va être plus facilement écouté par la personne qui est en face de vous.
Et puis là, c'est dans le cadre surtout de la, on va dire, de la première approche. Oui. Et ensuite, il y a tout le suivi client qui est aussi fait par toi.
Bien sûr, au début, parce qu'on est, on va dire, c'est le début, donc forcément.
Oui, vous êtes plutôt sur la phase de prospection.
Voilà, là on est dans quelque chose où on commence, donc on se lance vraiment. Donc effectivement, et après il y a tout le suivi client. Et donc c'est à nouveau un nouveau process. Effectivement, démarcher c'est bien, mais ensuite il faut savoir garder ses clients. Le plus important c'est de garder ses clients parce que ça coûte très cher de démarcher des clients. Donc il vaut mieux passer plus d'énergie à garder ses clients, à faire en sorte en tout cas qu'ils perdent pas, plutôt qu'à essayer systématiquement d'aller en chercher des nouveaux. Ça ne veut pas dire qu'une fois que tout est acquis, on arrête le développement commercial. Mais le but, c'est effectivement de garder ses clients, de les satisfaire systématiquement, au moins de répondre à leurs exigences.
Exactement, ouais. C'est ce que j'allais dire. Du coup, il y a toute la partie relationnelle qui est extrêmement importante, tu le disais. Ouais. Puis après, il y a un peu la stratégie de fidélisation, donc de faire en sorte que l'entreprise soit toujours en capacité de répondre aux besoins et aux attentes du client.
Et aux attentes du client.
Donc, c'est important, j'imagine, de bien entretenir la relation, d'avoir une très bonne communication aussi avec eux pour sans cesse, avoir leurs avis, identifier leurs besoins qui peuvent évoluer au fil du temps.
Alors, chez Be My Manager, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand on met en place, du moins, un développement... C'est-à-dire quand, on va dire, une école d'enseignement supérieur adopte notre scénario pédagogique, il y a une responsable pédagogique chez Be My Manager qui ensuite ne prend pas le relais, mais va quand même suivre, c'est-à-dire l'application du scénario au sein de l'établissement. Parce que si vous laissez ça comme ça aux étudiants, vous imaginez bien que d'eux-mêmes, ils ne vont peut-être pas forcément s'informer comme ils devraient peut-être le faire. Et c'est là le rôle en fait, de la responsable pédagogique, c'est d'entretenir en même temps la chose vis-à-vis de la personne qui, elle, est en charge de l'enseignement supérieur, en charge du moins de ce sujet-là. Donc, ensuite, ce n'est pas qu'une relation seule, c'est une relation, on va dire, à deux. Vous voyez ?
Oui.
Et ce qui est important en même temps, c'est que comme on est en fait sur des solutions, on va dire, technologiques, donc comme toute solution technologique nécessite d'évoluer. Donc à nous en même temps de faire évoluer notre produit en fonction des besoins et des futures demandes en fait. Voilà. Et puis en même temps de l'environnement dans lequel on évolue.
Très bien. On en parlait juste avant qu'on débute l'interview sur le fait que les entreprises, et donc pas seulement hein, les startups, ouais. on parlera des startups tout à l'heure, mais avaient de plus en plus de mal à recruter des commerciaux.
Ouais.
Est-ce que tu as un avis ? Est-ce que toi, déjà, c'est quelque chose que tu perçois au sein de ton milieu ? Et est-ce que tu as un petit peu un avis sur la question, des choses à partager et peut-être, du coup, de donner envie aux personnes qui, aujourd'hui, s'interrogent sur leur parcours professionnel, bah, de s'orienter vers ces carrières-là
Ouais, qui est du mal, en fait, aujourd'hui, à recruter. Je pense qu'on a du mal à recruter sur tous les secteurs.
Oui, sur tous les secteurs et tous les métiers.
Tous les métiers, aujourd'hui, c'est très compliqué. Après, on revient... C'est vrai que la partie commerciale nécessite quand même, à un moment, un certain... Vous devez avoir une manière d'être, vous voyez, on peut pas non plus comme ça s'improviser. Tiens, je sais pas quoi faire. Tiens, si j'allais vendre des produits, ouais. Et le problème, c'est que toi, ça s'improvise pas comme ça. Mais effectivement, je conseillerais aux gens qui sont peut-être sur des carrières qui ne leur plaisent peut-être plus et qui ont qui sentent en fait qu'ils ont cette fibre là, effectivement, d'aller s'y tester, ouais. Parce que c'est des métiers qui sont très intéressants. C'est des métiers où, effectivement, vous rencontrez énormément de monde. Il y a beaucoup d'échanges donc, qui peuvent vous permettre en même temps de progresser.
Et...
Voilà, et qui sont très enrichissants. Qui sont parfois durs parce que vous vous battez toujours contre quelqu'un, déjà. Voilà. Généralement, vous êtes pas, il n'y a pas de monopole, n'existe pas. C'est très rare. Donc oui, il y a ce qu'on appelle la mise en concurrence. Donc qui peut, des fois... permettre à certains, enfin, du moins qui peuvent entraîner chez certaines personnes, voilà, le fait d'être un peu moins motivé à un moment. Voilà, mais il faut avoir quand même un esprit de gagnant, quoi, pour pratiquer ce métier.
Un esprit de gagnant, très bien, on retiendra. et du coup, au-delà, c'est très important, et qui plus est, au niveau aussi de l'entreprise.
Oui.
En fait, c'est une nécessité d'avoir un directeur commercial, un business, parce qu'une équipe qui travaille sur la mise en place d'une solution, d'un produit, mais qui derrière ne peut s'appuyer sur aucune ressource pour aller ensuite vendre le produit, bah, l'entreprise, non, ça ne fonctionne
Exactement.
Pas. Donc, ce sont des profils qui sont essentiels pour le développement des entreprises.
Ouais.
Et pour toutes celles qui, aujourd'hui, peinent à recruter, ça peut annoncer la fin. Enfin, ça peut, du coup, mettre en péril...
Vous pouvez avoir un très bon produit,
très
effectivement,
projets,
qui peut être très mal vendu. Ou qui n'est peut-être même pas vendu, ou qui ne se vend pas, je vais dire. Et tout ça parce qu'il n'y a peut-être pas eu à un moment, effectivement, cette réflexion. Parce que un directeur commercial ou un responsable commercial, effectivement, identifie des cibles, enfin, définit une stratégie commerciale. Donc, il met en route, en fait, un process commercial qui passe par différentes étapes et donc qui doivent être suivis. Et qui, vous imaginez bien que vous ne gagnez pas en 2 mois. Donc, c'est des process qui sont assez longs. Pour acquérir ce qu'on appelle un matelas, c'est-à-dire quelque chose de récurrent qui puisse en même temps vous permettre de voir un futur un peu plus beau. oui, ça nécessite effectivement de mettre en place des process. Voilà. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc dans une entreprise, on va dire, on a chacun effectivement nos actions, nos métiers et voilà, nos axes de développement.
Et du coup, le rôle du directeur commercial est essentiel pour le développement, le bon développement de l'entreprise.
En tout cas, oui, il est essentiel, oui, bien sûr. À un moment, oui, il est essentiel.
Et donc là, on va s'intéresser un peu plus justement aux startups, ces entreprises un peu spécifiques qui sortent de l'ordinaire à comparaison des entreprises plus traditionnelles dans lesquelles tu as pu travailler. Est-ce que tu as eu une certaine... appréhension à rejoindre une start-up, toi qui étais habitué plutôt aux PME et en plus du coup des entreprises donc vraiment classiques dans le domaine du BTP, là on te propose de rejoindre à la fois une start-up et en plus une start-up du numérique, de la tech.
La totale.
Red Challenge, la totale. Vous pouvez pas faire
Alors, de dire qu'il n'y a pas d'appréhension serait mentir. Il y a toujours une appréhension quand on arrive dans quelque chose qui est forcément nouveau.
Ouais.
Après, ça dépend des caractères de chacun, mais sortir de sa zone de confort, quelque part, ça vous permet à un moment d'aller chercher un peu le bonheur, quelque part. Hein. Le bonheur, il est souvent en dehors de sa zone de confort. Donc là, moi, j'ai dû, effectivement... pas me motiver, parce que j'étais motivé, mais effectivement, j'avais cette appréhension. Et puis l'appréhension, elle disparaît assez vite une fois que vous arrivez dedans, que vous discutez un peu avec les gens avec qui vous travaillez. Donc, on est dans un secteur d'activité où je travaille avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi déjà. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas forcément. Ça ne veut pas dire que je ne travaillais pas avec des gens plus jeunes. Mais là, c'est moi le plus vieux. Enfin, avant, ce n'était pas forcément le cas. Quoique si, maintenant, de plus en plus, on arrive. Mais là, je travaille avec des gens qui ont deux fois moins, qui pourraient être mes enfants.
Donc, oui, la moyenne d'âge dans les startups, voilà, je crois que c'est à peu près 35 ans. Entre 30 et 35 ans.
Nous, on est plus
aux
alentours de 30. Ouais. Alors que moi, j'en ai 53. Donc, il y a ce décalage-là. Mais en même temps, c'est une richesse énorme. Parce que on rentre quelque part, quand on travaille déjà depuis, on va le dire, 25 ans, on rentre dans une certaine routine. Le fait de travailler dans une start-up, vous cassez un peu le côté routinier que vous pouviez connaître. Et en même temps, vous travaillez avec des gens qui ont un vocabulaire qui est différent.
Oui.
Vous travaillez avec, qui ont des visions qui sont différentes de l'entreprise et qui sont très intéressantes. Donc, je pense que la start-up, c'est en même temps un endroit où on peut pleinement s'épanouir. Il y a tout à faire. Donc, start-up, c'est quand même jeune pousse. Donc, c'est normalement, tout est en devenir.
En construction et en devenir.
Voilà. Donc, je crois que participer à des projets où vous avez tout à construire, dans le système d'entreprise traditionnel, c'est très rare, quoi. Mais là, ça vous permet effectivement d'être là dès le départ. Et donc, c'est... Il y a toujours des risques, hein, forcément, sinon ce ne serait pas très marrant. Mais ça vous permet de vous remettre en question, en tout cas. Et donc, d'apprendre encore et encore.
Et du coup, là, tu es arrivé il y a quelques mois au sein de la start-up. Est-ce qu'il t'a fallu un temps d'acclimatation à l'arrivée, notamment justement pour t'approprier un peu
le temps d'acclimatation, j'y suis encore dedans, hein, parce que... Il y a un temps d'acclimatation, ouais, le temps il est à mon avis entre 2 et 3 mois, parce qu'il faut comprendre, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un vocabulaire, chaque secteur d'activité a son vocabulaire. Donc des secteurs d'activité, j'en ai fait plusieurs, hein, de la pétrochimie, l'œnologie, le bâtiment, enfin le conseil, et donc on s'aperçoit qu'effectivement il y a tout ce discours qui lui est différent, quoi, et donc qu'il faut appréhender et qu'il faut intégrer, et l'utilisation de certains logiciels, parce que voilà, on change dans la manière même de travailler. Là, on est quasiment sur du zéro papier. Donc oui, c'est une autre manière d'appréhender les choses. Donc il y a effectivement un petit coup de pied au cul à se mettre. Ouais, au début.
Ah, mais j'imagine. Puis en plus, comme tu le dis, il y a à la fois le jargon propre au secteur d'activité et puis celui propre aussi à l'univers de la start-up.
Exactement.
On n'utilise pas le même vocabulaire en entreprise, dans ces entreprises-là.
Oui, c'est ça. Mais en tout cas, la start-up, c'est une bonne entrée en matière. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a vraiment tout à construire. Et c'est ce qui rend la chose vraiment très intéressante en même temps.
À la fois, comme tu le disais, au niveau du projet et au niveau de l'entreprise. Et je pense que oui, c'est une expérience unique pour découvrir comment se crée et se structure une entreprise. Parce que souvent, quand on arrive dans une PME ou dans une grande entreprise, tous les process sont déjà établis.
Exactement.
Alors que là, on participe, on observe toute la mise en place et l'organisation même de l'entreprise, de la vie de l'entreprise, du futur de l'entreprise en devenir. Et c'est passionnant de pouvoir observer
Et c'est passionnant. Et d'y contribuer surtout. Ouais. Donc voilà, faut venir dans les startups.
Ah ben justement, c'était le mot de la fin. Est-ce que tu aurais un petit mot pour encourager nos auditrices et auditeurs à travailler dans une startup ?
Et à travailler dans une startup, je pense qu'il faut déjà pas avoir, faut pas avoir peur au fond. Mais ça, c'est même pas que d'aller travailler dans une startup. C'est un moment, surtout quand on est jeune, on n'a pas grand chose à perdre quelque part. Hein. Donc, il faut pas avoir peur d'y aller, peur de s'engager. Au contraire, faut s'engager. Après, la réussite, elle est toujours liée au travail. Peut-être pour certains un coup de chance, mais en tout cas au travail. Donc que ce soit une start-up ou une autre société, ça nécessite beaucoup de travail. Et donc ça passe avant tout par ça. Donc il ne faut pas avoir peur de travailler. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il ne faut pas se mettre de frein. La start-up vous permet ça en même temps, hein, de vous libérer et de dire OK, on a tout à construire, donc allons-y. Donc on tente des choses et ensuite on peut se tromper, mais ça, ce n'est pas bien grave.
On peut se tromper, mais ce n'est pas bien grave. Comme l'échec, il ne faut pas en avoir peur, c'est toujours constructif.
Toujours.
Merci beaucoup Marc
pour ton témoignage. Merci à vous en tout cas, c'était très intéressant.
Présence. C'était un plaisir.
C'était le podcast Startup Job Story. Merci à toutes et tous pour votre écoute. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Rendez-vous aussi sur www.startupjobstory.com. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire.